Bonjour, Morgane sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres, l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Ce mois-ci, Valérie Proust, praticienne en fleur de Bac, va nous parler de la préparation d'un extrait gémothérapeutique. Après, Émilie Cadec, soigneur animalier, va poursuivre sur le sujet du mois de décembre, le loup. Vous venez de nous rejoindre sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres. On retrouve Valérie. Ce mois-ci, on va voir le mode de préparation d'un extrait gémothérapeutique. Bonjour Valérie.
Bonjour. Alors, donc, on va parler cette fois-ci du mode de préparation. Comment on fait, ça finit par devenir un liquide. Comment on passe, du bourgeon à la dilution.
On peut boire.
Voilà. Donc, alors, on prend, c'est très simple. On prend des bourgeons frais donc des jeunes tissus végétaux, quand c'est dans les radicelles, et ils sont hachés et mis à macérer dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. Cette solution étant les trois parties équivalentes, sont le mélange optimum pour dissoudre, c'est les meilleurs solvants en fait, et meilleurs supports pour obtenir la qualité du végétal, pour extraire les qualités du végétal. Parce que chaque l'eau dissout certains composants dans certains végétaux, la glycérine aussi, c'est ce qu'on appelle les différents aspects, soit liposolubles, soit hydrosolubles, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met les trois dedans, ensemble, comme ça on absorbe le plus de choses possible, on extrait.
Oui.
Voilà. Donc après 3 semaines de trempage, c'est le temps qui apparaît nécessaire, on filtre. Donc on dilue ensuite 10 fois ce mélange. Et il doit correspondre à 1/20 du poids des tissus récoltés. Voilà, donc ça réduit considérablement. Ensuite, alors, on dynamise homéopathiquement ce liquide afin de réaliser une dilution de première décimale nommée D1, que l'on conserve et qui sera utilisée thérapeutiquement. Mais en fait, il y a des gens qui ont... En fait, il y a différentes approches. Parce que la dilution homéopathique, on peut considérer que c'est différencié de l'homéopathie, c'est pas le même principe, parce qu'en homéopathie on est plus sur le niveau vibratoire.
Oui. L'information, il y a plus de molécules actives.
Tandis que là, il y a quand même, c'est vraiment des molécules physiques, ça se retrouve. Mais c'est des dilutions, en fait, si tu veux, on se retrouve à prendre des gouttes avec les pipettes ou c'est genre 100 gouttes à chaque
fois. C'est énorme,
Voilà, donc ça peut paraître exorbitant. Enfin, il n'y a pas besoin de les compter parce que maintenant il y a des pipettes doseurs, tu sais. Donc voilà, il y a le marqueur et puis. Mais pour certaines personnes, ça a une différence.
Ouais.
Et en plus, ensuite, il y a des macérats concentrés, ce qu'on appelle des macérats concentrés. Donc voilà. Mais quand même, le produit obtenu s'appelle macérat. Et donc, il contient une dose relativement importante d'alcool. Et c'est pour ça aussi que certains chercheurs ont préféré utiliser directement le macérat de base sans le diluer. Parce que justement, on redilue avec de l'alcool.
D'accord.
Voilà. Les qualités actives du produit obtenu, sont de toute façon les mêmes. Mais certaines personnes, c'est quand même plus acceptable, comme des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool ou pour les enfants, d'avoir un produit qui est vraiment beaucoup moins alcoolique, alcoolisé, alcoolique.
Alcoolise.
En tout cas, qui contient beaucoup moins d'alcool. Voilà. Donc ça s'appelle le macérat concentré.
Oui.
Voilà, ça c'est la différence. Donc les deux préparations, le macérat D1 ou concentré, s'utilisent par voie orale sous forme de gouttes et en général c'est de façon suivante. Donc le macérat D1, c'est 50 à 100 gouttes dans de l'eau 2 fois par jour, c'est ce dont on parlait. C'est vrai que ce nombre de gouttes, ça peut paraître
un peu beaucoup,
énorme. Ou le macérat concentré, ça va être 5 à 15 gouttes 2 fois par jour.
Oui.
Alors, toujours dans un peu d'eau. Ensuite, il y a l'utilisation du macérat D1 qui peut se faire en spray buccal.
D'accord.
C'est maintenant, il y a aussi beaucoup les sprays. Ouais, c'est assez pratique aussi en utilisation. Et ça peut se faire aussi sous forme d'application, justement. Là, on n'est pas obligé de boire. Ça va être en absorption sur la peau, sur le lieu où ça fait mal, etc.
D'accord.
Parce que les muqueuses, enfin la peau, c'est aussi un organe récepteur.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà. Et donc soit en application sur un endroit qui souffre, ou alors sur voilà sur la langue une à trois fois par jour.
D'accord.
Voilà, ces différentes formes, on peut dire, elles sont aussi efficaces les unes que les autres, et, et c'est pas une question de pratique pour le choix. C'est voilà, les, c'est juste surtout justement, c'est le contraire.
C'est pas une question d'efficacité, mais plus de voilà, choix personnel. Voilà, si on veut compter beaucoup de gouttes ou pas trop de gouttes.
Oui, et puis voilà, le côté pratique justement. Ouais. Voilà. Et de toute façon, ça ne change rien à l'intensité de la, des plantes et des bourgeons. Voilà. Donc maintenant, je vais parler, je vais faire un petit peu ma scientifique et faire une petite explication justement, parce que ça peut ne paraître pas très clair. Quelle est la différence entre la teinture mère, le macérat, et voilà. Donc, alors, ma petite fiche. Alors, on part d'abord par... l'extrait glycériné. Dans, entre les teintures mères et les différents extraits biologiques qui sont obtenus par macération, on distingue différents types de préparations. Donc l'extrait glycériné, qui est à base de eau et glycérine. La teinture mère, c'est une eau. On va par, là, on va prendre de l'eau de source. Vraiment, on fait très très attention à la nature de l'eau et alcool. Et il y a l'extrait hydroalcoolique glycériné au alcool glycérine qu'on retrouve dans les macérats en gémothérapie. Voilà. Donc alors pour l'eau glycérinée, il faut faire un mélange d'eau et de glycérine à part égale, 50% chacun, auquel on ajoute la plante. Voilà, pour une part de plante utilisée, on ajoute 4 parts de mélange hydroglycériné.
D'accord.
Donc on va faire une part de plante. Par exemple, là, on parle de grammes, mais 20 grammes d'eau pure, 20 grammes de glycérine, et puis ensuite, bon, en général, on va en mettre un conservateur. Parce que là, il n'y a pas d'alcool. En général, c'est l'alcool qui sert aussi de conservateur. Donc ensuite, on place en flacon ambré, tu sais, c'est les flacons bruns.
En vert teinté, là.
Voilà.
Pas que ça prenne
bien fermé pendant environ 3 semaines. En agitant le flacon tous les jours, ensuite, on filtre et on conserve, donc, en flacon ambré. Ensuite, on a donc le, l'extrait hydroalcoolique glycériné. Alors, avec cette méthode, on va s'assurer de pouvoir solubiliser pratiquement tous les actifs hydrosolubles ou uniquement solubles dans l'alcool. Donc, il faut faire un mélange alcoolique glycériné comprenant un tiers de chaque, soit 33,33%.
C'est précis.
Voilà. auquel on ajoute la plante.
D'accord.
Voilà. Et pour finir, ben on a la teinture mère. Donc par définition, la teinture mère, c'est une préparation qui est liquide, qui résulte de l'action dissolvante d'un véhicule alcoolique sur des drogues végétales fraîches. Ça,
des drogues
c'est une définition, mon cher. La teinture mère est obtenue par macération dans de l'alcool éthylique à différents degrés. Donc ça peut être 40, 60, ça dépend du degré de l'alcool.
Ouais.
De plantes médicinales fraîches ou stabilisées. Si la plante est sèche, on parle de teinture alcoolique. Voilà. Et hormis le fait d'utiliser de l'alcool, ce qui peut être justement rédhibitoire pour certains, la teinture alcoolique ou teinture mère est très intéressante parce qu'elle est facile à faire.
Oui.
Et puis le résultat est assez régulier. Ça, la concentration en substances actives est contrôlable. Voilà. Et puis sa conservation est stable.
Et oui, au moins.
Voilà. Voilà, pour ces trois différentes différentes techniques, quoi.
Ouais.
Un petit éclairage scientifique.
Voilà. Merci Valérie.
De rien.
Au mois prochain.
Au mois prochain.
more from the heart. Forever trust in who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't deceive, and nothing else matters. Yeah, trust I seek, and I find in you. Every day for us something new.
Bonjour, Morgane sur CFM, dans Les Hommes sont des animaux comme les autres. Ce mois-ci, on retrouve Émilie Cadec, responsable animalière d'un parc à loups, et on continue donc cette chronique sur le loup avec la relation à l'homme. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors le loup fascine l'homme depuis toujours, mais pourquoi ?
Alors le loup est sans doute le prédateur qui a été le plus persécuté au monde. Son statut a connu des revirements assez spectaculaires puisque à une époque c'était un prédateur à éradiquer à tout prix, puis après il a été protégé. Alors faut savoir que chez les Indiens par exemple, le loup était vu comme un passeur d'âmes, donc il était plutôt vénéré, apprécié. Chez les Inuits on l'appelle le docteur des caribous puisque quand il chasse, il privilégie toujours des proies affaiblies ou malades. Donc en fait il contribue tout simplement à garder des troupeaux en bonne santé. Et puis en Europe, ça a été l'incarnation du diable.
D'accord. Et quand est-ce qu'il a disparu de France, le loup, du coup ?
Donc la lutte contre le loup a débuté en 813 en France avec la création d'une compagnie de louveterie. Donc ça a été créé par Charlemagne.
C'est quoi la louveterie ?
En fait, c'est, on va dire, une compagnie de chasse qui est spécialisée dans la traque du loup, tout D'accord. simplement. Et après, ça a été repris par Napoléon en 1804.
D'accord.
Alors le loup, il a été traqué de plusieurs façons, hein. Il y a eu des battues, il a été empoisonné à la strychnine, il a été piégé, il y a eu des chasses à court.
Ouais, total, quoi.
Voilà, il y a vraiment eu un acharnement pour l'éradiquer. Il y avait des primes qui étaient données même aux particuliers pour abattre le loup. Et puis il a fini par disparaître dans les années 30.
D'accord. Et quand est-ce qu'il est réapparu ?
Alors, le loup a été observé de retour en France en novembre 92, en fait. Donc, ça a été observé dans le Mercantour. Ce sont des loups italiens qui sont revenus en France. Et aujourd'hui, il a recolonisé quasiment tous les massifs en France, puisqu'on le retrouve même dans les Pyrénées. Alors, il y a un peu plus de 300 loups actuellement en France.
Ah oui, quand même. Oui. Ça fait pas mal, ouais.
Alors, sa population augmente tous les ans. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ok. Et maintenant, il est protégé ?
Oui, tout à fait. Alors, le loup est inscrit en annexe 2 de la CITES. Il est aussi dans la Convention de Berne en annexe 2. Il est en annexe 2 et 3 de la directive Habitat, 4 pardon. Il est sur la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. Et puis par contre, cependant, les tirs de loups sont quand même autorisés. Il faut savoir qu'il y a des arrêtés préfectoraux. Cette année, il devrait y avoir 36 loups qui pourraient être tués entre 2014 et 2015.
Ah oui, d'accord. Mais bon, il y a quand même plus de loups qui... Enfin, ils prospèrent plus que ceux qui sont tués.
Oui, tout à fait. Le loup se reproduit quand même assez bien tous les ans. Alors, le problème du tir de prélèvement, c'est qu'il ne faut pas prélever n'importe qui dans la meute.
Ah, oui.
Si, par exemple, on tue un loup alpha, eh bien, dans ces cas-là, vu que la stabilité de la meute repose sur le couple alpha, les loups risquent de s'éclater. Hein, la meute risque de s'éclater. Et puis, plusieurs loups dans la meute risquent de se reproduire. Donc, on peut avoir un effet complètement inverse, plutôt que de réguler l'espèce. Donc il faut faire très attention à quel individu on prélève.
D'accord. Et on entend beaucoup parler du loup, notamment à cause des dégâts sur les troupeaux de moutons. Est-ce que les éleveurs, ils ont des solutions vraiment efficaces pour se protéger ?
Alors, le gouvernement français, via le programme Life Loup, subventionne plusieurs mesures de protection. Ils peuvent avoir des subventions pour avoir des chiens de protection, par exemple. Donc, le chien de protection le plus connu, c'est le patou. Hein,
oui, gros chien blanc.
Voilà, tout à fait. Après, ils peuvent également avoir des subventions pour avoir des aides-bergers, pour les aider sur les troupeaux. Alors, il faut savoir que, contrairement à l'époque, maintenant, les troupeaux ont beaucoup augmenté. Il y a quelques milliers de têtes. Donc forcément, les éleveurs ont besoin un peu de main-d'œuvre. Et puis, il y a également... ils peuvent mettre des parcs électriques. Alors, il faut savoir que pour lutter contre le loup, il faut souvent combiner plusieurs moyens de protection. Il faut revoir complètement des méthodes de travail. Fut une époque, on pouvait laisser encore des troupeaux quasiment en liberté sur les alpages. Aujourd'hui, c'est impossible. Hein. Il faut vraiment les protéger. Et puis, la présence humaine permanente est quasiment nécessaire. Alors, le chien de protection est également très efficace. Un patou est capable de faire reculer un loup sans souci.
D'accord.
Et oui, du coup, on dit que l'homme a peur du loup, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment, en fait ?
Alors, faut savoir qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut lire dans les contes pour enfants, le loup ne mange pas les enfants.
C'est pas le grand méchant loup.
Voilà, tout à fait, ni les adultes. Faut savoir qu'en fait, le loup, c'est un animal qui n'est ni méchant ni gentil. Mmh. C'est juste un grand prédateur qui a son propre comportement. Alors quand même, face à l'homme, la réaction naturelle du loup, c'est quand même la fuite.
Ah, il va pas faire face à attaquer.
Non, il a très très peur de l'homme. D'ailleurs, dans la nature, il est très difficile d'observer des loups, puisque en général, ils nous sentent de très très loin et préfèrent s'enfuir plutôt que de venir à notre rencontre. Donc, les randonneurs en montagne, voilà, il n'y a aucun risque. Si un jour ils croisent un loup, ils auront bien de la chance, ils seront privilégiés plutôt. Ouais. Donc, non, le loup a plutôt peur des hommes. Alors, il y a quelques attaques qui ont été quand même répertoriées. Donc, à l'époque, les attaques qui ont été observées, c'était par des loups qui avaient la rage. Hein.
Ah, oui.
Ou alors, ce qui a été observé, ce sont des loups qui étaient acculés dans un coin ou qu'on provoquait, qui n'avaient pas d'autre manière, qui ne pouvaient pas fuir, et donc il y a pu avoir des attaques. Mais les attaques restent très 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 rares.
Ouais. Donc finalement, le loup est moins dangereux que le chien.
Alors tout à fait. Hein, si on doit répertorier les morsures par le chien et par le loup, non, le loup ne représente pas de danger réellement pour l'homme. Hein.
D'accord. Et comme tu as travaillé dans des parcs animaliers, est-ce que tu as observé une différence entre les loups en captivité et les loups sauvages au niveau du comportement, justement?
Alors, ce qui est assez intéressant avec le loup, c'est que même en captivité, il va reproduire certains comportements qu'il a dans la nature, notamment la structure de la meute. Elle va être quasiment identique en captivité.
Ouais.
Alors après, nous, on a observé des différences de comportement de temps en temps d'une meute à l'autre, d'une sous-espèce à l'autre. Alors, par exemple, les loups du Canada, ils ont la réputation d'être un petit peu plus calmes que les autres loups.
Ouais.
Donc, dans certains enclos, alors la plupart, quand on rentre dans les enclos, les loups fuient. Hein, ils ont très peur de nous, on les apprivoise pas. Et dans d'autres enclos, les jeunes loups ont tendance à venir nous voir par curiosité, par jeu. Mais bon, globalement, ça se passe très bien. Hein. Il suffit des fois rien que de taper dans ses mains, ça peut faire fuir un loup.
Peur,
Faut pas oublier que ce sont des animaux qui sont très curieux et très joueurs quand ils sont jeunes. Hein. Après, une fois qu'ils sont adultes, il y a pas de souci.
Ouais. Après, il faut éviter de s'accroupir, je crois, ou de se mettre par terre.
Voilà, tout à fait. Alors, par contre, il y a quand même des règles de sécurité à respecter avec des loups en captivité. Il faut rentrer au moins deux dans un enclos et il ne faut pas tomber, notamment. si on tombe. Son réflexe de prédateur, c'est de charger, puisque dans ces cas-là, il nous voit comme une proie qui est malade. Voilà, donc là, il peut nous charger, donc il faut être attentif à ça. Et effectivement, si on s'accroupit dans un enclos, alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir une attaque. Par contre, ça va inciter les loups à s'approcher de nous par curiosité.
D'accord. Ouais, donc le fait de rester sur nos deux jambes, ça les fait plutôt fuir. Et
voilà, que la plupart des animaux ont peur de nous du fait qu'on se déplace sur deux jambes.
Ok. Est-ce que tu peux conseiller aux auditeurs des ouvrages ou des associations sur le loup?
Alors oui, il y en a beaucoup. Hein. Alors sur les ouvrages, moi je vous conseille Le Loup de Jean-Marc Landry, hein, qui est très complet, qui est très intéressant. Il y a également Geneviève Carbone qui a fait plusieurs livres sur le loup, notamment Destination Loup. Et puis il y a également le livre Vivre avec le loup de Julie Delfour. Après, il y a plusieurs associations aussi qui s'intéressent aux loups. Il y a notamment le WWF, qui est une association.
Une grosse asso,
voilà. Après, il y a l'ASPAS également. Et puis, surtout, Férus, qui s'occupe des grands prédateurs en France, le loup, l'ours et le lynx.
D'accord, donc on peut retrouver, j'imagine, les sites sur Internet.
Voilà, tout à fait. Vous tapez sur Internet, vous trouverez leur site. Alors, il y a également certaines associations qui proposent de faire de l'éco-volontariat, d'aller aider les bergers dans les montagnes. Férus notamment propose de faire des stages pour aller aider les éleveurs.
Ouais,
si vous avez du temps cet été, allez-y.
Ok. Eh ben, merci beaucoup Émilie pour ce partage très intéressant et peut-être à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
C'était Morgane sur CFM, dans Les hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec une citation de Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent.
Parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte.